troisième cassette, on va l'axer sur les enfants de Dieu. Qui sont-ils? En sommes-nous vraiment? Est-ce qu'on peut comparer les enfants de Dieu en tant que disciples de Jésus? On va essayer de déterminer sur cette cassette tout le plan déjà choisi par Dieu pour amener ses enfants à devenir des disciples. Ce qui attend ces enfants-là et l'espérance qu'il lui est promis au bout pour ceux qui auront tenu jusqu'au bout. Un petit fait que j'aimerais apporter en partant concernant les béatitudes. Au début de ma conversion, j'étais assis dans un centre de prière. Il y avait une personne qui était venue enseigner. À côté de moi, il y avait une petite fille handicapée avec sa guitare qui était très, très triste. Je la regardais et je me demandais pourquoi elle était si triste. C'était plus fort que moi. Je me suis viré vers elle et je lui ai demandé qu'est-ce qui te rend si triste. Elle m'a répondu, j'aimerais bien jouer, mais il n'y a personne qui veut m'entendre. Je lui ai demandé la permission de jouer, mais ils ne veulent pas que je joue. La regardant avec compassion, je lui ai demandé si elle pouvait venir jouer de la musique chez moi, parce que j'avais plusieurs enfants et qu'eux aimaient beaucoup la musique. Avec un grand sourire, elle m'a répondu oui. Mais la personne qui était en avant a jeté un regard en notre direction, sans dire un mot, mais comme si déjà elle avait un jugement de fait. Ça fait que cette personne-là qui se prétendait croyante, avoir fait de la théologie pendant au moins 3 ans, 5 années d'études bibliques par-dessus ça, commençait justement à parler des béatitudes. Là, devant tout le monde, elle commençait en disant que Jésus était monté sur la montagne, s'est assis avec ses disciples. Puis là, il s'est mis à les enseigner. Pour elle, il enseignait les foules, parce que les foules l'avaient suivi. Il avait suivi ses disciples. Alors, tout bonnement, je l'ai regardé, j'ai dit, je m'excuse. Jésus, quand il est monté sur la montagne, lorsqu'il s'est assis avec ses disciples, c'était justement à ses disciples qu'il enseignait. Ceux qui l'avaient choisi comme maître, puis qui voulaient suivre son enseignement. Alors, la personne me regarda d'un air enragé, me dit, pour qui tu te prends, toi? J'ai 5 années d'études bibliques, j'ai 3 ans de théologie, tu ne me montres pas à enseigner aux gens. J'ai dit, je regrette, madame. J'ai dit, j'ai pas cette prétention-là d'avoir 5 années d'études bibliques, encore moins des années de théologie. Alors, elle entra dans une fureur, et elle se réfugiait dans les toilettes. En sortant des toilettes, elle me regarda et dit, « Qu'est-ce que tu fais de l'amour? » J'ai dit, « Madame, j'ai dit, si avec la connaissance que vous avez face à la Bible, face à la parole de Dieu, puis ce ne serait pas à vous d'avoir assez d'amour pour excuser ce que je vous ai dit? » Il me semble qu'à mes yeux, j'ai simplement répété ce que Jésus lui-même a dit. Elle m'a répondu d'une façon, si tu regardes une femme avec l'intention de la désirer, tu as déjà commis l'adultère, faisant référence à la petite fille qui voulait chanter, mais que personne ne voulait entendre. Elle s'en retourna d'une fureur incroyable. Sur cette cassette, on va regarder qu'est-ce que c'est les enfants de Dieu. En revenant aux béatitudes, on peut prendre le texte dans Matthieu. Sur cette partie, je vais prendre les références bibliques. Matthieu 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Son nom revient à l'enseignement qu'il donnait à ses disciples, ou je devrais dire, à ses fils. Il vous est dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Sommes-nous vraiment des enfants de Dieu? Sommes-nous ce sel que Jésus nous disait d'être? Si le sel vient qu'à s'affadir, avec quoi le salera-t-on? Si on allume une lampe, c'est certainement pas pour la mettre sous la table, c'est plutôt pour la mettre clairement à la vue des gens, pour qu'elle éclaire les gens. Mais les enfants de Dieu, si du moins nous en sommes, sommes-nous là pour éclairer autour de nous? Sommes-nous là pour rappeler que la parole de Jésus est la seule qui doit être regardée comme véritable? Sommes-nous là pour préserver comme le sel préserve la viande ou préserve les aliments? Sommes-nous là en tant qu'enfants de Dieu pour préserver la véracité de la lumière, de la vérité que Jésus vient nous annoncer? Sommes-nous vraiment enfants de Dieu? Qu'est-ce qui diffère un enfant de Dieu d'un fils de la GN? Si on regarde l'enseignement de Jésus, Jésus nous a demandé de nous amasser des trésors, non de ce côté-ci. C'est sûr qu'il est intéressant de travailler et d'accumuler ou de, même sur le plan matériel, d'avoir plusieurs possessions. Jésus lui-même nous dit, c'est qu'on se sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient qu'à part de son âme. Faisons-nous partie de ceux qui vont perdre leur âme à cause de la cupidité, à cause du matérialisme? Où sommes-nous prêts à faire face à l'enseignement qu'il donnait à ses disciples? Être prêts à combattre pour la justice? Être prêts d'être regardés comme pauvres en esprit? Être prêts à marcher d'un cœur pur? Être prêts même à être insultés? Si on s'en remet à Jésus, c'est sûr que sur le plan humain, on pourrait s'inquiéter, mais comment est-ce qu'on va faire pour y arriver? Comment est-ce qu'on va faire pour arriver à vivre les temps de ténèbres qu'on vit dans le moment. Est-ce que l'enseignement qui nous est apporté vient de la parole du Christ, vient de cette vérité qu'il incarne lui-même? Si déjà les oiseaux du ciel, qui ne font que faire le pourquoi dont ils ont été créés, c'est-à-dire voler, siffler, et qu'aucun d'eux se perd sans la permission de Dieu, Jésus nous dit que nous valons plus qu'eux. Est-ce que ça vaut la peine que dans notre vie, nous prenions une décision de vouloir véritablement vivre sa parole? Pourtant, sa parole est claire. Jésus nous dit qu'il connaît chacune de ses brebis. Ses brebis connaissent aussi, parce qu'il ne suivrait pas un étranger. Faisons-nous partie de ses brebis? En tant qu'enfants de Dieu, savons-nous reconnaître sa parole? Pouvons-nous reconnaître la véracité de sa parole? Au son de sa voix, sommes-nous prêts à suivre le chemin qu'il nous a tracé? Au son de sa parole, sommes-nous prêts à nous confier en lui pour qu'il nous conduise sur de verts pâturages? Ou plutôt faire comme le côté humain, s'inquiéter de tout et de rien. Pourtant, il nous dit qu'il connaît bien ses brebis. Il connaît ce qui nous manque pour arriver à le suivre. C'est lui qui a créé le vouloir et le pouvoir. Même si dans nos cœurs, sa parole nous révèle le vouloir, il nous reste encore à lui demander le pouvoir de l'accomplir, sa parole. C'est pas de tout repos, parce que déjà les persécutions nous ont été annoncées. Mais qui sont ces persécuteurs des enfants de Dieu? Est-ce les païens? Les païens s'emparent pas de Dieu. Ne serait-ce pas plutôt ceux qui se disent enfants de Dieu, mais qui du fond de leur cœur n'ont pas accepté de suivre l'enseignement de leur maître? Ne serait-ce pas ceux qui, au lieu de s'attacher à la tête qui est le Christ, se sont attachés à la tête qui est soit un pasteur, soit un prêtre, soit une dénomination qui les oblige à contredire la parole de Dieu, par leurs actes, par leurs œuvres, par leur enseignement? Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons suivre le conseil que Jésus nous a donné, de discerner l'arbre à ses fruits? Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Si le mauvais arbre est devant nous et que nous manquions de discernement, y a-t-il encore une promesse que Jésus nous a dit? Ce qui vous manque, demandez-le avec foi. Votre Père qui est dans les cieux va vous donner sans compter. Mais ne doutez pas dans votre cœur. Jésus nous demande de pratiquer sa parole. Il nous dit lui-même, si vous vivez par ma parole, la vérité va vous rendre libre. Mon effet m'admire au-dedans de vous, en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi? Sommes-nous vraiment des enfants de lumière? Sommes-nous vraiment des témoignages vivants de cet amour qu'il a, de cette miséricorde qu'il a, de cette patience qu'il a envers chacun de ses enfants? Où sommes-nous de ceux qui sont prêts à juger, même condamner, plutôt que de discerner et chercher à guérir, chercher à soigner? Sommes-nous vraiment des enfants de Dieu? Pourtant, l'appel que Jésus a mis dans votre cœur, il est bien dit que personne ne peut aller à Dieu sans passer par le Christ, mais qu'il n'y a personne qui peut aller au Christ Jésus sans que le Père ne l'appelle. Votre appel vient-il des hommes? Ou vient-il de votre plus profonde âme, sachant que Dieu est vrai? Sachant qu'il vous a appelé et choisi comme un peuple de racheté, une nation sainte, un sacerdoce royal, les héritiers de la promesse. Faites-vous partie du nombre de ses enfants? Jésus, dans sa bienveillance, un jour s'adressa au Père. Il lui dit, « Père, je te loue, je te bénis d'avoir caché ça aux sages et aux intelligents. Mais dans ta bienveillance, tu l'as révélé à tes enfants. En tant qu'enfants de Dieu, marchons-nous selon cette révélation que Jésus est vérité, que Jésus est lumière, que Jésus est chemin de la vie? Ou préférons-nous simplement nous abuser par de vains raisonnements? Préférons-nous nous croire plutôt que de croire au Christ Jésus? Préférons-nous tenter d'interpréter ses paroles plutôt que de vivre par elles, par son esprit? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Qu'est-ce qui fait que la lettre tue et l'esprit vivifie? C'est comme Jésus dit lui-même, le juste vivra par la foi. En ayant foi à ses paroles, l'Esprit les révèle dans nos cœurs et nous permet de vivre par elles. Qui préférons-nous croire? L'auteur de la vie? Ou les auteurs des dénominations? En tant qu'enfant de Dieu, Jésus est venu accomplir une chose. Il est venu enlever le joug que l'homme avait mis sur l'homme. Ce joug, ne serait-il pas la religion? Déjà en son temps, il y avait les pharisiens, les sadducéens, qui déjà divergeaient d'opinion face à Dieu lui-même. Sur le côté des peuples païens, il y avait encore des religions. Il y en a qui étaient dirigés vers les Baals, déesses de la terre, déesses des vents, déesses du soleil. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'appel qu'il nous a donné, est-ce pour le suivre, lui? Faire du monde en tant que disciple. Ceux qui croiront, baptisez-les. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Combien de fois dans notre vie d'enfant de Dieu, nous arrêtons-nous simplement pour nous dire quelles sont ces prescriptions? Sur le plan humain, souvent, on va confier notre santé à un docteur. J'ai rien contre le docteur. Ça a l'air, dans son amour, il avait même prévu, à cause de nos nombreux péchés, de ne pas nous laisser sans soins. Il est l'auteur de toute science. C'est sûr que nos pauvres corps mortels, de temps en temps, ont besoin de soins, quelle que soit la maladie. Mais avons-nous assez de foi pour garder à sa promesse, en gardant à lui comme auteur de la vie? Paul, en tant qu'apôtre, s'est fait soigner par Luc, qui était médecin. Pourtant, Paul était un homme de foi. Mais est-ce que Luc a réagi face à Lazare lorsqu'il était mort? Jésus a été relevé d'entre les morts. Est-ce que notre foi en tant qu'enfant de Dieu peut nous faire connaître la différence? Pourquoi, quand telle circonstance, Jésus agissait par lui-même, même s'il avait donné des ordres à ses disciples? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, il dit, ceux qui croiront, baptisez-les. Sommes-nous des croyants? Il nous dit, voici les signes de ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, guériront les malades, prendront des serpents dans leurs mains, sans qu'il ne soit fait aucun mal. Quand même qu'ils boiraient un breuvage mortel, ça ne leur portera pas atteinte. Pourtant, dans le Nouveau Testament, si on regarde l'histoire de Paul, ça lui est arrivé d'être mordu par une vipère. Il n'en est pas mort. Ça lui est arrivé d'être mis face à des persécutions. Lui-même en parle du fait qu'il a été lapidé, laissé pour mort. Mais encore là, le Seigneur intervenait. Comme il nous disait, face aux inquiétudes, on vaut plus que les oiseaux. On vaut plus que les lys des champs. Est-ce que dans nos cœurs, on voit vraiment la valeur que Jésus nous accorde? La valeur au point de venir nous donner l'exemple, nous démontrer comment faire, au point de donner sa vie en tant qu'enfant de Dieu. Nous lui avons-nous donné notre vie? Jésus nous dit que ceux qui cherchent à garder leur vie la perdront, mais que ceux qui la perdront à cause de son nom la retrouveront. Qu'est-ce une vie de 50, 60 ou 100 ans de ce côté-ci, comparé à une éternité? Nous sommes au déclin du sixième jour. Le septième jour vient, le jour du repos, d'où Jésus sortit de la promesse. Déjà son peuple dans le désert, à cause du fait qu'il n'écoutait pas ce qu'il disait, malgré tout le bienfait qu'il leur donnait, les merveilles qu'il faisait devant eux. Il avait juré dans sa colère qu'il n'entrerait pas dans son repos. Nous qui avons toutes ces histoires, tous ces exemples tirés de son peuple, qui un jour, par sa grâce, retournera à lui. Nous avons ces exemples et nous hésitons encore. Mais sommes-nous vraiment des enfants de Dieu? Ou nous abusons-nous simplement en parole? Ou nous laissons-nous abuser par des prédicateurs qui, pour eux, nous représentons une source de gain? où sommes-nous vraiment des enfants fidèles? Que le fait de mettre sa parole en pratique nous a rendus libres à tous égards. Que cette liberté, nous l'avons confiée en ses mains pour accomplir sa parole. Accomplir toutes ses prescriptions. Accomplir les signes qui viennent confirmer ses paroles. Jésus lui-même disait, si vous ne croyez pas mes paroles, croyez au moins les signes qui les accompagnent. Sur la déposition de deux témoins, les faits sont gardés comme véritables. Déjà, la parole qu'il annonçait est vérité. Les signes qui l'accompagnaient rendaient furieux ceux qui se disaient de son nom. Pourtant, Jésus les a traités de menteurs. Ils disaient eux-mêmes qu'ils avaient pour père Abraham. Jésus les regardait et lui disait, si vous aviez pour père Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham, mais vous avez pour père le menteur. Est-ce que ceux qui vous prêchent dans le moment font partie des disciples de Jésus, des serviteurs de Jésus, ou font-ils partie des fils du mensonge? Pourtant, Jésus est vérité. Est-il possible qu'il se serve de sa parole afin de mieux vous attirer, afin de se faire connaître et que vous les serviez? Ou sont-ils assez honnêtes pour dire « Christ est vérité, c'est lui que vous devez connaître, et c'est lui à qui vous devez obéir. » Encore une fois, je pose la question. Êtes-vous enfant de Dieu? Suis-je un enfant de Dieu? Si on regarde dans le Nouveau Testament, on pourrait regarder dans Galates, nous parle de la liberté évangélique. Quelle est cette liberté évangélique si nous sommes alliés à une dénomination? Sommes-nous restreints par les dogmes de ces dénominations? Quelle que soit la dénomination, nous permet-elle d'aller vers ceux qui ont faim? Nous permet-elle de tendre la main à celui qui est étranger? Nous permet-elle de consoler celui qui est dans l'épreuve? Nous permet-elle d'aller guérir les malades? Nous permet-elle simplement d'aller annoncer cette bonne nouvelle? Ou nous tiennent-elles captives, nous empêchant simplement d'être des enfants de Dieu, des enfants de lumière, des témoins de sa vérité, des disciples d'un Père qui veille à chaque jour? Jésus a fait une prière à son Père. Père, tu as gardé en ton nom ceux que tu m'as donnés. Aucun ne s'est perdu sinon le Fils de la perdition. Je te prie afin qu'il soit un en nous, comme toi en moi et moi en toi, afin que nous soyons un en eux comme eux en nous. Mais encore là, il y a une promesse. Heureux es-tu, petit troupeau, car ton Père a cru bon de veiller sur toi. Comment se fait-il qu'il y a tant de dénominations? Comment se fait-il qu'il y ait tant de gens qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne lèveraient pas le petit doigt, simplement pour aider le prochain? Sommes-nous comme la parabole que Jésus a amenée face au bon samaritain? Les prêtres du temps passaient à côté sans se soucier. Mais un samaritain passant, il ne s'est pas inquiété de quelle religion il était. Il ne s'est pas inquiété de quelle dénomination il était. Il s'est inquiété de voir qu'il y avait quelqu'un de blessé. Il a pris sur lui même de panser ses plaies. Il l'amena d'un hôtel, il le prend en charge. Au moment de son départ, le même avisé que s'il en coûtait plus que qu'est-ce qu'il laissait, qu'à son tour, il compenserait. Jésus nomme le bon samaritain. En tant qu'enfant de Dieu, donnons-nous cet exemple. Ou donnons-nous l'exemple des scribes et des pharisiens. La liberté évangélique nous permet de l'accomplir, étant libre face à Jésus parce qu'il nous a libérés. Par sa mort, il a enlevé le joug que l'homme avait mis sur l'homme. Du fait qu'il s'était chargé de toutes nos fautes, il payait la rançon pour nous apporter cette liberté. Ce n'est pas une liberté que je vous promets aujourd'hui. Je vous rappelle simplement celle que Jésus nous a promis. Si vous gardez ma parole, la vérité vous rendra libre. Et je viendrai faire ma demeure au-dedans de vous. Jésus vit-il au-dedans de vous dans le moment? Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous avez cette assurance que Jésus agit en vous? Que Jésus aime ce que vous faites? Est-ce qu'en toute chose, vous cherchez à lui plaire? Et non au pasteur ou à la dénomination ou à qui que ce soit, mais à plaire à Jésus-même? Le Seigneur nous appelle à vivre, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous apprend? L'Esprit de Dieu nous apprend à reconnaître sa présence dans celui qui souffre. L'Esprit de Dieu nous apprend à reconnaître sa présence en celui qui a même fait le mal, mais qui ne sait pas s'en sortir. En tant qu'enfant de Dieu, nous place-t-il là pour lui tendre la main ou pour lui mettre un jugement sur le dos en le condamnant? En tant qu'enfant de Dieu, nous donne-t-il le discernement pour trouver le bon remède pour cette personne? Pourtant, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. C'est bien plus facile d'éloigner de nous ceux qui ne nous acceptent pas. C'est bien plus facile de rendre le mal pour le mal. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous est-il pas dit de rendre le bien pour le mal qui nous est fait? De prier pour ceux qui nous font du mal, prier pour ceux qui nous persécutent. Comment pouvons-nous aimer quelqu'un qui tout au long de sa vie nous a montré qu'il nous haïssait? que ce soit un parent, que ce soit un frère, que ce soit un étranger. Si tout ce mal qu'ils nous ont fait nous ont rapprochés de Jésus, sur le plan humain, sur le plan charnel, oui, notre chair en a souffert. Mais sur le plan spirituel, voyons-nous combien ils nous ont approchés de Dieu. Est-ce que nous pouvons les pardonner? Est-ce que nous pouvons apprécier que le mal qu'ils nous ont fait nous a tellement rapprochés de Dieu qu'il nous est permis même de leur tendre la main pour le faire comprendre? Sommes-nous des enfants de Dieu? En tant qu'enfants de Dieu, il nous est demandé de nous supporter les uns les autres, de supporter les plus faibles. C'est sûr qu'on ne peut pas prendre le fardeau de tout le monde, mais par l'exhortation, par les exemples que Jésus venait nous montrer, est-ce que nous pouvons les réconforter? Est-ce que nous pouvons les exhorter à venir placer le fardeau aux pieds de Jésus? Est-ce que pouvons-nous remplacer ce vide qu'ils ont autour d'eux jusqu'à temps que Jésus vienne remplir leur cœur? Pouvons-nous leur tendre la main pour les soutenir? En tant qu'enfant de Dieu, le soutien mutuel est-il une façon de, par nos actes, de dire « Oui, Père, je te remercie au moment où j'étais loin de toi, que tu m'aies appelé. Je te remercie au moment où je défaillais, tu me supportais. Est-ce une façon de lui dire merci au moment où on était seul, de manifester sa présence de peur qu'on soit tenté par tout ce qui entoure le monde? Est-ce une façon encore de lui dire merci? Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons dire « Vous me reconnaîtrez l'amour que j'ai dans mon cœur pour mes frères? » La question avait été posée dans la deuxième cassette. Face à l'Évangile, il était dit « Comment reconnaîtrons-nous tes disciples? » Les reconnaîtrez à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Est-ce que dans vos dénominations actuelles, ou même celles que vous avez connues, ou même celles peut-être qui vous ont blessé, avez-vous découvert cet amour, ce soutien, cette miséricorde, cette bienveillance, cette patience que Jésus tout au long de sa vie a démontrée, allant jusqu'à dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pouvons-nous, en tant qu'enfants de Dieu, pardonner ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont délaissés, ceux qui nous ont jugés? N'est-ce pas ce qu'il demande à chacun de ses enfants? Si on aime seulement ceux qui nous aiment, quel gré nous en sera-t-on? Mais si par sa grâce, nous accomplissons sa parole, ferons-nous partie de son repos? Il n'y a aucun doute là-dessus. En tant qu'enfants de Dieu, en sommes-nous fiers ou en rougissons-nous? C'est sûr, en tant qu'enfants de Dieu, Il y a une multitude de dons, de ministères que Dieu a préparés pour nous. Puis Jésus est venu les accomplir. Il est venu même choisir de ses véritables témoins pour qu'eux aussi rendent témoignage de lui après sa mort, après sa résurrection, en nous disant le pourquoi de sa mort, le pourquoi de sa résurrection. Mais est-ce que cette diversité-là de dons pour chacun de ses membres se manifeste dans vos dénominations? Se manifeste dans votre propre vie en tant qu'enfant de Dieu? Marchez-vous avec la révélation de Jésus? Ou marchez-vous avec l'interprétation des dénominations? Ce serait facile à dire que les prophètes n'existent plus. Ce serait facile que dire les apôtres, il y en avait seulement 12. Mais si à ce moment-là, les prophètes, les évangélistes ou même les apôtres n'existaient plus, est-ce que ça voudrait dire que les enfants de Dieu espéraient en vain? Nous est-il permis de douter au point de perdre ce salut qu'il nous a offert? De perdre cette promesse qu'il nous a promis et témoigné et prouvé? Déjà, il y avait deux gens à côté de lui, à sa mort. Un se moquait de lui en disant, toi qui as sauvé les gens, qui guéris les gens, sauve-toi et sauve-nous avec toi. L'autre qui était condamné avec lui pour peut-être la même peine ou une peine semblable, lui répondit, n'as-tu pas la crainte de Dieu? Nous, ce qui nous arrive, nous le méritons, mais lui n'a rien fait. Il se tourna vers Jésus, lui dit, Jésus, souviens-toi de moi. Quelle fut la réponse de cet exemple de miséricorde, d'amour? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. En tant qu'enfant de Dieu, si nous mourions ce soir, pourrions-nous hériter de cette même promesse? Nous l'avons-nous reconnue? Nous nous sommes nous reconnus en tant que pécheurs, afin d'implorer de Jésus son pardon, de recevoir sa part, sa miséricorde et sa promesse, pour qu'à notre tour de cet amour-là, nous puissions la témoigner en tant qu'enfant. Dire mon Père même. N'est-ce pas là une partie du plus grand commandement? Celle qui résume toute la loi et les prophètes? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. En tant qu'enfant de Dieu, nous aimons-nous? Prenons pour terminer cette partie de la cassette. L'hymne à la charité ou à l'amour, dépendamment de vos versions dans Corinthiens 13. Nous allons faire une petite chose spéciale. Nous allons prendre un Corinthiens 13. Et de là, on simplement la citer de la façon qu'elle est écrite. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert de rien. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Et quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli de ce qui était l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, de ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Dans le moment, ce que je viens de citer est textuel. Mais on peut faire une comparaison aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. Pouvons-nous reconnaître que lorsque Jésus est venu, il était l'amour personnifié? Reprenons le même texte. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas Jésus. Je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas Jésus, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas Jésus, cela ne me sert de rien. Jésus est patient. Jésus est serviable. Jésus n'est pas envieux. Jésus ne se vante pas. Jésus ne s'en fout pas d'orgueil. Jésus ne fait rien de malhonnête. Jésus ne cherche pas son intérêt. Jésus ne s'irrite pas. Jésus ne médite pas le mal. Jésus ne se réjouit pas de l'injustice. Mais Jésus se réjouit de la vérité. Jésus pardonne tout. Jésus croit tout. Jésus espère tout. Jésus supporte tout. Jésus ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. C'est sûr que je viens de changer un mot. J'ai changé le mot « amour » par « Jésus ». Mais en tant qu'enfant de Dieu. Si chacun de nous mettons en pratique sa parole, Jésus nous dit qu'il nous rend libres et qu'il vient faire sa demeure au-dedans de nous. nous pouvons encore le lire une fois. Mais en tant qu'enfant de Dieu ayant accepté Christ dans nos cœurs, ayant accepté de pratiquer sa parole et en le laissant agir au-dedans de nous, à ce moment-là, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous pouvons lire ce même texte, mais de cette façon? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas, si je ne suis pas amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de toutes les prophéties, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je ne suis pas amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je ne suis pas amour, cela ne me sert de rien. Je suis patient. Je suis serviable. Je ne suis pas envieux. Je ne me vante pas. Je ne m'enfle pas d'orgueil. Je ne fais rien de malhonnête. Je ne cherche pas mon intérêt. Je ne mérite pas, je ne médite pas le mal, je ne me réjouis pas de l'injustice, mais je me réjouis de la vérité. Je pardonne tout, je crois tout, j'espère tout, je supporte tout, je ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. C'est partiellement que nous connaissons. C'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. On pourrait continuer, Corinthiens 13, rechercher l'amour, aspirer au don spirituel, mais surtout celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, parlons-nous aux hommes. Parlons-nous à nos frères et à nos sœurs, en tant que frères et sœurs. Sommes-nous de véritables enfants de Dieu? Est-ce que ce texte qui vient d'être lu de trois façons différentes mais qui pourrait être allié en un seul texte, fait partie intégrante de notre vie d'enfant de Dieu. C'est sûr, en tant qu'homme, Jésus faisait mention des enfants, de laisser les enfants venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Regardez les enfants vivre. Peut-être vous rendront-ils témoignage que Jésus est vrai. deux enfants qui chicanent. Après que la chicane est terminée, ils continuent à jouer ensemble. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous cherchons, nous, des puces simplement pour ne plus nous parler. Ou avons-nous assez d'amour dans le cœur pour nous pardonner et de continuer le même chemin, enfin? Pour ceux qui, dans le moment, se verraient trop sales, pour ceux, dans le moment, qui se voient trop loin du Christ Jésus, rappelez-vous que Christ, le vouloir, c'est le pouvoir. C'est sûr que sur le plan humain, votre cœur peut désirer, en réalisant que vous ne pouvez. Mais en tant qu'enfants qui ont choisi d'adopter Dieu comme Père, Jésus comme Père céleste, il est venu leur montrer que ce qu'il était impossible pour eux était possible pour lui. Est-ce que cette espérance habite en vos cœurs en tant qu'enfants? Sachant que même si en chemin, il vous donna de vous enfarger, de tomber, que Jésus n'a pas le bras trop court pour vous le tendre et vous relever, que Jésus a déjà préparé des hommes et des femmes pour vous tendre la main, pour vous rappeler que c'est à lui que vous devez regarder, pour qu'un jour vous soyez vraiment des témoins de sa lumière, de sa vérité, de sa miséricorde, de sa bonté, mais des témoins aussi de sa résurrection, afin que tous ensemble, un jour, nous prenions part à sa vie. En posant cette question, sommes-nous des enfants de Dieu? Ou de tout notre cœur, espérons-nous en devenir? Pour ce qui est de ce sujet, pour l'instant, cette cassette va s'arrêter, mais avec une suite, à savoir si ceux qui nous prêchent de lui, si ceux qui nous parlent de lui sont des disciples en tant que serviteurs. D'ici la suite, je prie, Père, d'ouvrir vos cœurs, d'ouvrir votre esprit, afin qu'en vous, vous trouviez ce qu'il a changé, que vous reconnaissiez qu'il lui est désagréable, tout en vous repentant de ses œuvres et en lui demandant la grâce d'un jour de l'accepter comme sauveur, d'accepter de mettre en pratique sa parole dans vos vies, afin que selon sa promesse, il vienne vivre en vous, pour que vous soyez un en lui. C'est au nom du Christ Jésus que je fais cette prière en votre nom. Et je vous remercie à l'avance. Merci.
Étant voulu, chanter pour toi. Oh Jésus, ça c'est ton nom. Allez chanter à mes frères. Allez leur dire que tu les aimes. Et sans voulu chanter pour toi. Permets Seigneur que je chante encore pour ta gloire. Allez dire à mes frères tout partout où ils sont que tu les aimes et t'en voulu chanter, chanter ton nom, voir à ton nom, Seigneur, ta miséricorde durera toujours, à toujours. J'ai voulu chanter ton nom, chanter, chanter tout partout. Permets Seigneur tout simplement. Aujourd'hui je suis encore chanter ton nom. Oh mon Dieu, redis toutes les merveilles que tu as fait, que tu as fait pour moi et pour mes frères et pour aussi ceux qui ne connaissent pas. Mais qui espère un jour pouvoir s'approcher de toi. Oh, permets-moi, oh mon Dieu, permets-moi tout simplement de leur dire de s'avancer vers toi de pas ferme, que toi tu les attends, que tu les aimes, qu'il leur suffit de reconnaître tout leur temps, et toi comme toujours, tu pardonnes quand on reconnaît. Oh Jésus, aimez-moi simplement, élevez la voix vers toi et pour toi.